vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on Hunt, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui met cold. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct d'un appartement chauffé de Rosemont, Montréal, c'est ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Cette semaine, je vous dirais, depuis à peu près lundi, je suis affligé, mesdames et messieurs, de la plus grosse grippe. Mais c'est plus une grippe, là. Je vous dirais que c'est une bronchite asthmatique. Je vous dirais même que j'ai une pneumonie qui s'est mêlée au travers. Là, vous allez me dire, comment ça tu sais ça? Je suis pas allé à la clinique parce que j'ai pas de temps à perdre, mais ça n'a aucun bon sens. Là. Je me crache les poumons, j'ai de la misère à marcher. Là, je prends des Advil, mais je suis allé travailler quand même, mais on va dire la vérité, il y a des journées où j'ai dû quitter le travail parce que j'étais bien trop magané. J'ai pas soulevé de poids. Mais ce que j'ai fait, c'est que là, vous autres, vous n'avez pas l'air de me croire là, à la maison, mais je suis vraiment sérieux dans mon idée de devenir Monsieur Canada. Mais, je vais le faire, c'est plus un combat contre moi-même. C'est, je ne vais pas prendre de stéroïdes. Je ne vais pas prendre de suppléments alimentaires en dehors de, peut-être, du calcium, des multivitamines, puis... pas grand chose d'autre. J'ai des suppléments de légumes. Je mange pas beaucoup de légumes. Fait que j'ai comme des légumes déshydratés en poudre. Là, parce que si vous connaissez l'entraînement un peu, on appelle ça des veggie green. Je vais prendre un peu de suppléments pour aller chercher mes portions de légumes. Mais ça va être à peu près tout. Là. Je vais pas tomber dans la supplémentation. Je vais pas tomber non plus dans ce qu'on appelle le bronzage. Là. Mais. Cette semaine, j'ai lu beaucoup parce que les gens qui s'entraînent comme moi, je sais que vous êtes nombreux à la maison à vous entraîner, parce que je vous ai inspiré. Il y a un concept qu'on appelle le repas tricherie. Mais moi, le problème, c'est que je mangeais bien pendant 5 jours et je trichais toute la fin de semaine. Et là, j'ai ce qu'on appelle un désordre alimentaire. Je pouvais, la même soirée, engloutir un gros sac de Skittles à 5$ au dépanneur. Le plus gros sac de popcorn de l'épicerie qui pèse 1 livre. Me commander 2 pizzas sur le 2 pour 1, boire du crème soda jusqu'à temps que j'ai de la misère à marcher tellement que je suis plein, OK? Puis le lendemain matin, je recommençais le dimanche. Toute la journée, ça pouvait être un sac de Doritos au complet, une grosse poutine au Canada Hot Dog, 2 hot dogs, pizza 2 pour 1 encore le soir, puis je recommençais à manger des bonbons. Fait que j'ai compris que j'avais un désordre alimentaire. N'ayons pas peur des mots. Je peux pas vivre en athlète du lundi au vendredi, descendre mon poids de 4 à 5 livres pour en reprendre 3 à 4, 5 la fin de semaine. Et là, finir le mois, j'ai perdu 4 livres. Puis là, on descend tranquillement. Oui, je descends. Oui, j'ai amélioré mon physique. Mais je veux gagner Monsieur Canada. Je veux devenir... un athlète de haut niveau. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, J'ai mangé de la boîte, puis j'étais tout croche. Puis là, je veux me transformer. Fait que cette semaine, j'ai vraiment lu sur ce qu'on appelle le cheat meal, le repas tricherie, comment le gérer, puis tout. Puis de pas enlever le mot tricherie, puis d'en faire plus un repas où tu profites de la vie, tu profites des gens autour de toi, et tu rembarques sur le plan. Donc, 2023, ce sera l'année où je ferai mes débuts en culturisme professionnel. Mais encore là, ça va dépendre des résultats. Moi, je vais manger le mieux possible. Je vais faire mes choses. Je ne prendrai pas de stéroïdes. Puis si, à cause que j'ai 41 ans bientôt, de la peau morte, puis je suis roux, puis je bronze pas, ben je ferai juste me promener avec ma shape aux Galeries d'Anjou. Tu sais, c'est pas plus grave que ça, mais je vais passer à la prochaine étape grâce à mon entraîneur privé, M. Stéphane Rioux. Pour vos besoins en perte de poids, prise de masse ou simplement améliorer votre posture, Stéphane Rioux, entraîneur privé, disponible partout sur les Facebook. Alors, c'était ma pub où je suis top shape. Cette semaine, pas grand-chose. J'ai quitté le travail deux fois un peu plus tôt parce que je suis en train de me cracher les amygdales. J'essaie de survivre. On a un gala la semaine prochaine à Shawinigan. Je vous ai préparé en audio le top 10 des choses qui vont se produire en boxe québécoise l'an prochain. L'an prochain, plutôt. Attends, pourquoi attendre l'an prochain quand je peux vous dire tout de suite ce qui va arriver? Donc, préparez-vous. Désolé, j'ai parlé de ma vie très longtemps. Ça va faire chialer David-Alexandre Clapin, qui est le seul qui se plaint du podcast. Il y a 200 personnes qui m'écrivent me dire que c'est bon. Une personne qui chiale, David-Alexandre Clapin. C'est ça, les jeunes. Ça a tout cuit dans le bec, puis ça chiale. Merci, restez là, plein d'affaires. Avoir un auto et avoir un problème mécanique, je n'hésiterai pas un moment à me présenter chez Malécano, mécanique générale, où le garagiste d'expérience Hassam Laham vous attend pour les changements d'huile, changements pneus, réparation des freins, des mufflers, des bougies, power steering. Si son frère Baha pouvait à peu près tout faire dans un ring, Hassan Laham, lui, peut à peu près tout réparer. Hassan Laham, mécanique générale, au 514-240-5022. Avant de commencer le podcast avec la chronique québécoise, il y a eu cette semaine le décès du juge Mill Lanes. Mill Lanes, lui, ben, il vient de décéder. Et c'était l'arbitre quand... ça se peut que je tousse là, pendant le podcast, puis comptez pas sur moi nécessairement pour découper les extraits, là, parce que sinon, ça va prendre 3 heures à enregistrer. Moi, là, je vous fais une garantie, je vais être là chaque semaine, Noël, jour de l'an, mort de mes parents, mais... ça se peut que des fois, je magané. Décès de l'arbitre Mill Lanes. Lui, il était shérif de son état. Il était juge aussi. Et il avait 85 ans. C'est lui qui criait tout le temps le « Let's get it on » quand le premier round commençait. Et il est décédé chez eux dans le Nevada. C'est lui qui avait s'était rendu compte que Evander Holyfield s'était fait mordre une oreille par Mike Tyson. Il a boxé chez les amateurs, il a boxé pro. Il était très en charge des combats, tu sais. On voyait ce qu'il faisait. 5 pieds 7, 150 livres. Il avait pas peur de crier ses consignes. Et dans sa carrière de juge, on l'appelait Maximum Mills. Parce que, mettons, là, que tu sacrais une volée à quelqu'un, puis que tu passais devant le juge Mills, il avait une petite tendance à te donner le plus long verdict qu'il pouvait donner. Il était pas doux avec les sentences. Arbitre très respecté. Bien sûr, Holyfield Tyson, la revanche, c'est lui qui a ramassé le morceau d'oreille à terre. Il a crié « Il l'a mordu! Il est disqualifié! » Puis il en mettait là pour le... Il en mettait pour... le spectacle un peu. C'est lui qui était là quand Oliver McCall, il a disqualifié Vermicall pour bris de nerfs. Ses nerfs avaient lâché, puis s'était mis à pleurer pendant le combat. Puis là, Lennox Lewis frappait sur un gars qui pleurait. Puis il a arrêté le combat. C'est lui qui a disqualifié Henry Akiwande parce qu'il accrochait trop dans son combat contre Lewis. Cette année, il l'a disqualifié. C'est lui, à un moment donné, tenez-vous bien, il essaye d'empêcher Bernard Hopkins d'accrocher, puis il pitch en deux cas sans faire exprès. Le combat a été annulé. Il y a des choses qui arrivent. J'ai pas fait exprès pour le pitcher en bas. C'était aussi un animateur. Non, il écoutait la radio. Il est allé dans les Marines. Figure très connue. Il a raté les Olympiques en 60. Après ça, il va passer chez les pros. Donc, il a été avocat, juge. Et il a eu son show qui était juge Mill Lanes. Je crois, si ma mémoire est bonne, que c'était sur HBO à l'époque. Donc, c'était quand même assez drôle, merci. Il était au temple de la renommée. Donc, regardez bien. C'est fait. Voilà l'histoire. Donc, c'est ça. Le juge Mill Lanes est décédé. Donc, on lui souhaite... on lui souhaite bonne chance pour la suite des choses, hein, où qu'il soit dans sa vie. Aussi, dans les notes que j'avais écrites, il y a des rumeurs que la WWE, avec la famille McMahon, eux, ils ont toujours trippé sur la boxe. Si vous y pensez, Raymond Rougeau avait affronté Owen Hart au Forum en 96. Après ça, il y a eu aussi Mike Tyson qui était impliqué dans la dégénération X. Triple H était dans les invités qui marchaient vers le ring aux côtés de Floyd Mayweather pendant des années. Récemment, ils ont rentré Jake Paul et Logan Paul dans certains combats dans leur fédération. Tyson Fury est allé affronter Braun Strowman aux Émirats Arabes Unis. Donc, il y a un lien naturel. Floyd Mayweather avait affronté le Big Show à WrestleMania à coup de chaise. Il y a un lien naturel entre la lutte et la boxe. Il aime la boxe, la famille McMahon. Et là, il pense rentrer en boxe. On verra bien. Écoutez, il y a déjà assez de misère à organiser des combats, aussi bien faire de la lutte au travers. Donc, c'était mon deuxième sujet de la semaine que je vous avais pris en note, la lutte et la boxe. Prochain sujet, si jamais mes notes veulent ouvrir. Karl Frosch a été intronisé au Temple de la Renommée. Yvon Michel, une fois, il avait dit en ondes, Karl Frosch, c'est comme un boxeur qui fait tout bien à 70%, mais le fait qu'il fait tout bien à 70%, enfin, un boxeur à 85% bon. Tu sais, c'est l'ensemble du fait qu'il est meilleur que la moyenne qui fait de lui un grand boxeur. Écoutez, 33 victoires, 2 défaites. Et oui, il a volé André Dirrell. Il perdait au juge contre Jermaine Taylor avant de l'arrêter. Les combats contre Bouté. C'est spectaculaire quand même, la carrière de Karl Frosch. Les deux combats contre André Ward. Les deux combats contre George Grove. André Ward, il l'a affronté, je ne sais plus combien de fois qu'il l'a affronté. Là. Vous me voyez mêlé comme un cheval dans un jeu de quilles. Mais Karl Frosch, par son style, il a eu... Il remplissait les arénas très, très facilement. C'est un autre qui avait pas peur d'affronter tout le monde. T'sais, il a affronté Jean Pascal. Il a affronté les combats. C'est, dans le fond, c'est contre lui que... J'ai-tu le droit de dire ça? C'est contre lui qu'André White s'est un peu mis au monde. C'est en gagnant le Super 8. C'est comme ça qu'on l'a connu beaucoup. Moi, la première fois que je me suis rendu compte qu'il existait, c'est quand il avait affronté Robin Reed avant d'affronter Jean Pascal. Il a affronté Jean Pascal, Jermaine Taylor, André Dirrell, perdu au juge contre Kessler. Il a battu Abraham, Glencoff Johnson, perdu contre André Ward. Il a battu Bouté, Youssef Mack, Kessler, George Grove deux fois. Bon, On parle d'une excellente carrière, d'un gars qui a vendu énormément de billets, qui est resté en boxe après, s'est fait refaire le nez, puis là, il est resté en boxe par la suite. Donc, merveilleux. Hein? C'est lui qui a brisé un peu le cœur des Québécois avec Luciane Boutet. Et du côté de Karl Froch, maintenant, on peut le voir comme animateur à la télévision. Il y a Juan Manuel Marquez aussi qui a été intronisé, puis un autre que j'ai oublié d'écrire son nom.
Maintenant, c'est la chronique boxe québécoise.
Bon, en boxe québécoise, on a appris cette semaine, grâce à Laurent Poulain, le chercheur professionnel, que Wilkens Mathieu, déjà un premier... Première erreur, Wilkens Mathieu va passer chez les professionnels. Et ça, ça fait capoter mon ami Sylvain Pelletier. Il faut comprendre que... Surtout dans la culture américaine, si un boxeur est favori pour gagner les Jeux olympiques ou est un espoir olympique, c'est très mal vu quand un promoteur le passe chez les professionnels. Mais là, à 18 ans, tu peux bien faire ce que tu veux. Fait que Wilkens Mathieu, qui aurait représenté le Canada aux Olympiques l'année prochaine, qui, en 24 plutôt, qui... était un espoir de médaille certain pour 2028, voire même un des favoris pour gagner l'or. Un gars qui a des victoires à l'international, chez les amateurs, c'est un méga prospect. Depuis déjà, je vous dirais, 2 ans, Wilkens avait déménagé au Québec, à Montréal, des parties de Québec. Il s'entraîne avec Mike Moffa, peut aller visiter bien sûr, le programme de l'équipe nationale qui est à Montréal, dans le coin du stade olympique, si ma mémoire est bonne. Donc, Camille Estéphane veillait sur lui. C'était un naturel de le passer pro avec Eye of the Tiger Management. Mais, c'est un éternel débat. Est-ce qu'il est trop jeune pour passer pro à 18 ans? Votre réponse sera la mienne. Ce qu'il va falloir surveiller avec Wilkens, il a tout le talent du monde. Mais là, laissez-lui 4 ans là, pour affronter un peu des boxeurs peut-être plus faibles, monter sa carrière tranquillement, le laisser mûrir physiquement. Énervez-vous pas avec un gars qui passe pro à 18 ans. Est-ce qu'il va être capable de... Il a tout le talent du monde, OK? Ce qui va être fatigant pour lui, c'est les références à son frère. On va se tromper, on va l'appeler Lexun. On va faire des lapsus. On va se demander s'il aime la boxe, si lui aussi va abandonner dans 3 ans. C'est sûr, ça va être difficile pour lui de sortir de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, la vie. C'est les comparaisons, c'est de vivre avec ton nom de famille. Moi, c'est l'inverse. C'est mon père qui a de la misère à porter mon nom parce que je suis rendu tellement connu que c'est le père à Laurent. T'sais. Puis ça, c'est plate, des fois, pour lui. Mais là, Wilkens va être le frère de Lexun. Jusqu'à temps qu'il sorte de cette coquille-là, puis que ce soit Lexun qui devienne le frère de Wilkens. Comprenez-vous? Il y a toujours un petit délai. Là. Comme Nicholson Poulard était le demi-frère à Pascal. Ça finit jamais, ça. Joe Gatti était le frère d'Arturo. C'est pas évident de porter certains noms de famille. Mais je vous avertis, Wilkens Mathieu, il a énormément de talent. Laissez-le mûrir pendant 4 ans. Ce gars-là va remplir des salles de spectacle à Montréal et au Québec. Donc, début professionnel de Wilkens Mathieu le 9 février prochain. Yocasta Vallée avait gagné le titre WBO des 108 livres. Alors qu'elle possédait le titre WBO des 105 livres, voici qui est totalement illégal. Donc, elle a été obligée d'abandonner son titre des 108 livres. Ma prédiction. Le titre WBO sera rajouté au titre WBA et au titre WBC lorsque Kim Clavel affrontera Jessica Neri Plata le 13 janvier prochain. Et nous pourrons dire que ce délai de 5 semaines a permis à Kim... de se battre pour 3 au lieu de 2 ceintures. Comme quoi, un malheur, parfois, peut être repris dans un grand moment de bonheur. Et c'est beau quand je parle, hein? Je suis rendu un vrai petit philosophe. Bon, attendez, je vais aller prendre ma tablette pour vous parler de ce prochain combat-là. Toujours en direct, Yves Ulysse va affronter l'intouchable Javier Molina. Molina est un Américain surnommé l'intouchable, qui nous vient de Norwalk, en Californie. Et là, il est 38e au monde, mais là, je vais vous le dire, c'est les gros chars. Là. On y va pas que le dos de la main morte, OK? Lui, je le connais très bien, il a 32 ans. Alors qu'il est un enfant âgé de 20 ans, il va perdre un combat serré contre Antonio Reyes. Premièrement, il a passé pro, il avait 8 ans et demi. Il va perdre un combat en 2016 sur la grosse télévision. Il est coupé au 8e, il va perdre contre Jamel Jones. Après ça, il a eu 2 défaites et il va se mettre à ouvrir la machine, OK? Mais sur un moyen temps. Il va battre Jesse Roman, Abdiel Ramirez, Manuel Mendez. Il va battre un japonais invaincu qui est en montée, Hiroka Okada. Il va geler en partant. Il n'est pas supposé, là. Okada est en montée. Il va battre celui qu'on pensait que c'était le nouveau Floyd Mayweather, Amir Iman. Après ça, il va perdre une décision contre José Pedraza, Jesus Ramos, et récemment, il se fait voler en Angleterre contre Robbie Davis. 3 défaites de suite. Mais je vais vous le dire, prenez ça bien au sérieux, là. Dans son dernier combat, c'était un championnat WBA continental. Classé 38e au monde. Okay. Ce gars-là sait boxer. Il est très bon. Je vais vous dire une affaire. Yves Ulysse est mieux d'être sur son A-game contre Javier Molina. Je vais vous dire une autre affaire. Yves Ulysse et Éric Bazignan seront impliqués le même soir dans 2 combats difficiles. Bazignan affronte Atlantis Fox. Ulysse affronte Javier Molina. Je sais pas si vous le savez, mais on est chanceux d'avoir cette qualité-là d'adversaire au Casino de Montréal. On se fait servir quand même des gros chars. Donc, ceux qui chialent que c'est cher sur BoxRec, arrêtez de chialer parce que ça, c'est la grosse gomme, ces 2 combats-là. Mes maudits chialeux. On est gâtés le 9 février prochain. Pendant, c'est ma fête le 10. Moi, je vais être au casino, OK? Je vais attendre. Là, le monde de la boxe ne seront pas partis. Camille et Stéphane, ça a de l'argent un peu. Le 10, je vais crier, c'est ma fête, paye-moi une bouteille de champagne. Il n'y aura pas le choix, il va me payer une bouteille de champagne. Champagne, il m'a garoché du champagne partout. Fait que c'est ça mes projets pour mon anniversaire, le 10 février prochain. Attendre le 9 à minuit, me faire payer une bouteille de champagne par Camille et Stéphane, puis en pitcher partout sur le monde qui joue aux machines. Voici mes projets pour le Casino de Montréal. Cette semaine, vendredi, au Centre Gervais Auto, à Shawinigan, Québec, Canada. Présenté par Camille et Stéphane de High of the Tiger Management, sous la supervision de la régie de l'alcool et courses sport du Québec. Bon, il va avoir un galop de boxe. Alexandre Gaumont va affronter, on semble piger en Pologne pour les adversaires qui tombent vite à Alexandre Gaumont. Pietros Bis. Bon, ça fera pas long feu. Luis Santana affronte Jonathan Oribe. Hernandez, ça, c'est pas pire. Léla Beaudoin va affronter Val Gerdur Gustendottir. Elle, c'est une Norvégienne. Sa fiche est pas pire, elle a l'air tough. Puis Léla, c'est une machine de guerre. Ma prédiction, Léla s'en va dans tous les classements dans les prochaines minutes. Thomas Chabot, lui, va faire face à Jonathan Carillo Baranda. Chabot, on va s'arranger pour pas qu'il perde, là, puis que tout aille bien. Parce que Chabot, à Thetford Mines, il peut remplir une salle juste de monde qui veulent le regarder. Fait qu'imagine le regarder boxer, on va remplir des arénas. Mary Spencer, le titre IBO sera en jeu. Elle va affronter Fanky Herman. Herman a fait 3 rondes avec Savannah Marshall. La limite avec Larissa Shields. devrait faire un 3-4 rounds avec Mary Spencer, va se faire arrêter. Spencer va gagner la IBO en espérant que ça lui ouvre les portes pour Natasha Jonas et Terry Harper. Steven Butler a un bon adversaire en Joshua Conley. Mon Steven, j'ai hâte de voir s'il ne l'arrête pas en partant, le genre de boxe qu'il va nous offrir en deuxième moitié semble plus mature que que jamais. Et Arslanbek Makhmoudov devrait l'emporter en, je vous dirais, 1 minute 20 contre Mikael Walij. Profitez-en, souriez, ainsi va la vie. Et je vous ai préparé avant, Jean-Pascal, il devrait avoir une conférence de presse cette semaine. Attendez-vous à ce que Mathieu Germain soit en sous-carte et je ne sais pas qui d'autre. Et je vous ai préparé une petite blague de Noël. Savez-vous pourquoi le Père Noël est joyeux le 26 décembre? Parce que sa poche est vide.
Tu vas me faire mourir de rire.
Toujours en direct avec cette blague qui va probablement me propulser dans un festival juste pour rire près de chez vous. Hier soir, Terence Crawford l'a emporté au 6e contre David Havanesian. Terence Crawford, ne vous trompez pas, est trop fort pour la Ligue. Seul un combat contre Errol Spence à 147 livres ferait du sens si on exclut Jaron Ennis, qui est peut-être un peu jeune, mais qui a tout ce qu'il faut pour se défendre. Et plusieurs choses. Crawford croit que la seule solution pour affronter Errol Spence, c'est d'aller en Angleterre pour la neutralité du territoire et le fait que les gens achètent des millions de billets, donc on serait capable de le payer raisonnablement. Jaron Ennis, lui, croit que la solution, c'est d'organiser une trilogie entre Ennis et Spence. Comme ça, on met Crawford de côté. Écoutez, je ne sais pas ce qui va arriver à suivre, mais Terence Crawford est encore au sommet de son art. Ça, ça laisse pas vraiment de doute. Teofimo Lopez et bientôt, il faudrait prendre Teofimo Lopez puis l'enlever de son père pour qu'il puisse avoir un vrai entraîneur de boxe parce qu'hier, il avait pas l'air bien préparé. Il est allé au tapis puis il a volé une décision contre Sandor Martin. Grand bien lui fasse, mais ce gars-là va se faire tuer s'il affronte l'élite à 140 livres présentement, que ce soit Gervonta Davis ou que ce soit Devin Haney ou ces noms-là. Teofimo, autant il a été génial contre Vasil, Lee Lomachenko, autant là, il a l'air d'un cheval de reculons sur l'autoroute. Et Banny Bridge s'est fait traiter de skanky stripper, que je qualifierais de danseuse à louche ou pas chère. Mais je suis pas sûr que ça veut dire skanky. Par Shannon O'Connell, faut comprendre le phénomène. Elle se pèse en lingerie. Elle a des seins refaits, des fesses rondes magnifiques, des beaux yeux, un teint incroyable. C'est une très belle femme, Ebony Bridge, pour ceux qui aiment ce style-là. Moi, j'adore ça. Et Shannon O'Connell était dans la shape de sa vie, mais au premier round, elle a fait mal à Ebony, mais Ebony, elle continue à avancer puis frapper comme une malade. Ebony est hot, elle sert de son physique, elle met des photos en lingerie, elle se pointe avec OnlyFans.com tatouée sur le ventre pour dire qu'elle vient d'ouvrir un compte où elle va mettre des photos sexy et peut-être nue. Elle attire beaucoup l'attention à cause de son physique, puis elle fait exprès, mais elle livre la marchandise dans le ring. Donc, si vous la connaissez pas, Ebony Bridge, Google Images, vous reviendrez dans une heure. Luis Alberto Lopez a battu Josh Warrington, devient champion dans une bataille. Il y avait du sang, il y avait un peu de tout. Tim Zhu est certain qu'il a la puissance pour faire mal à Jermell Charlo. C'est le combat le plus intéressant, c'est du lit début 23 dans la longue liste de combats qu'on pourra écouter en 2023. Anthony Joshua a un meilleur résumé que Tyson Fury selon Eddie Hearn. Bof, ça y appartient, là. On pourrait bien en discuter, mais j'ai pas vraiment d'opinion sur ce commentaire. Adrien Bruneur pourrait affronter Ivan le terrible Red Cash dans la nouvelle patente où il va se battre BLK, je pense pas sûr. Là. Comme une nouvelle promotion derrière Adrien Bruneur. Jared Big Baby Anderson et la prochaine affaire a passé son test hier. Fury et Usyk, attendez-vous que ce soit le 18 février ou le 3 mars. J'ai une anecdote de Noël. Mes parents aiment aller jouer au playground dans les machines. Et un jour, la tante des frères Hilton était allée aux Indiens jouer au bingo. Elle s'était fait attaquer pour son 500$ qu'elle avait gagné dans le parking. Les Hilton ont embarqué dans un char, sont descendus, ont sacré une volée à un Indien au hasard, puis ont dit « c'est un à un ». Les Hilton puis les Indiens, puis sont retournés à Ville-la-Salle. Quelle belle anecdote de Noël! Alors là, j'aimerais vous dire, je vais vous faire une chronique que j'ai écrite puis qui a bien fonctionné, mais je vais vous la faire en texte. Ce sont mes 10 prédictions pour l'année 2023. En 10e, hey, c'est pas facile ma pneumonie, mais je viens de ravaler pendant que je parlais. En 10e position, en 2023, je prédis que Arthur Beterbiev va passer le KO à Anthony Yardé en janvier, passer le KO à Callum Smith en juin, mais celui-là, je ne serais pas surpris que ça finisse en décision unanime, et il va finir l'année en gagnant un combat difficile contre Joshua Boitsy par décision unanime. Et là, on aura l'impression que Beterbiev est sur les derniers milles et Bivol va commencer à s'y intéresser à la fin de l'année 2023. Je prédis aussi qu'Alexis Barrière va gagner 4 combats, dont un contre le Chinois Junlong Zheng, domicilié à Toronto, un gars de 40 ans, avec 19 victoires, 18 KO. Quand il se bat, la Chine achète des millions de streaming. Donc, ça va être l'idée à Pellerin d'essayer de vendre son streaming en Chine. Junlong Zheng contre Alexis Barrière et 3 autres victoires. Et je prédis que Yann Pellerin va continuer à défricher les terres. Il va aller à Boucherville, Granby, Lorraine et Longueuil. Et il va commencer à sortir sur la place publique pour parler de Kane contre Barrière plus souvent qu'il le fait. Parce qu'il le fait déjà, mais plus souvent. J'ai aussi prédit, puis là, il y a quelqu'un, genre, dans ma prédiction, j'ai fait chier quelqu'un. Hilaire Alvarez, Sébastien Bouchard, Michael Zuski, Marie-Ève Dicker et Mathieu Germain vont annoncer leur retraite en 23. Mathieu me fait dire que ça n'arrivera pas. Pour les 4 autres, je suis pas mal certain. Sébastien Bouchard, il n'y a absolument aucune nouvelle. Michael Zuski non plus. Hilaire, il le dit à mots couverts que c'est fini. Marie-Ève Dicker, elle peut réaliser son rêve de faire de la radio et de ne pas affronter Marie Spencer. C'est pas fin, ça. Je la laisse tranquille. Donc, Mathieu Germain, peut-être pas, mais il va avoir 4 retraites chez Groupe Yvon Michel en 2019. Je viens de vous les énumérer. Simon Kane va se présenter aux élections partielles de Trois-Rivières. Ça, c'est un peu exagéré. Sous la bannière conservatrice. Démission de Jean Boulay, le ministre de Trois-Rivières. Je prédis qu'il va se mettre un pied dans la bouche, encore une fois, qu'une citation sur l'immigration. Éric Duhaime va présenter Simon Kane, son ami, dans Trois-Rivières. Jeff Fillion, Éric Martel-Baouli, Bernard Barré et Doc Mailloux vont faire du porte-à-porte. Et Simon Kane va gagner, va devenir le nouveau député, le seul député conservateur au Québec pour Éric Duhaime. C'est ma prédiction. Éric Bazignan va subir la défaite contre David Morel, c'est le top 6. Morel, il cherche à affronter des gens, mais il cherche à vieillir, pas mûrir au travers, pas pas prendre de défis trop énormes. Éric Bazignan, vu qu'il fait tout bien, mais rien d'exceptionnel, va sembler plus facile à accueillir, mettons, qu'un Christian Billy ou un Benavidez. Donc, Morel va l'inviter pour la ceinture WBA et le Cubain va arrêter Bazinian avant les rondes de championnat. Francis Lafrenière, il n'a pas l'air à vouloir arrêter. Il y a des rumeurs qu'il reviendra à peu près aux deux semaines. Il va affronter Ryan Ford en avril, Shaquille Finn en juillet, puis Vincent Thibault en décembre, c'est ma prédiction. Et là, il va annoncer sa retraite à deux semaines de Noël. Après son combat, un match nul contre Vincent Thibault. Okay? C'est ma prédiction. Kim Clavel va se battre pour les 3 ceintures en janvier. Pour les 4 ceintures après ça, contre Valley autour du mois de juillet. C'est-tu Valley qui reste? Non, je suis mêlé. Là. Non, Bermudez va aller chercher la ceinture IBF. Puis elle va affronter Bermudez pour la ceinture IBF qui va manquer en juillet. Elle va gagner les 4 ceintures. Elle va marier un athlète. Oh, je ne sais pas qui. Elle en trouvera un. Puis elle va partir de la compagnie Kim Clavel Linge. Ou elle va vendre des cotons ouatés. Prédiction. Christian Mbili va gagner le titre WBO en France ou en Australie ou en Angleterre. L'important, c'est que ce soit un pays du Commonwealth contre Zach Parker. Après que Canelo a battu John Ryder et abandonne le titre. Ça va avoir lieu le 22 décembre, en quelque part en Angleterre. MBD va finir l'année champion du monde WBO, selon mes sources. Marie Spencer va finir l'année avec tous les ceintures à 154 livres et une date de combat pour affronter Clarissa Shields en 2024. Ça, c'est réglé. Oscar Rivas et Arslanbek Makhmoudov vont s'affronter en 2023. Marc Ramsey va négocier avec Camille et Yvon. Il va mettre Luc-Vincent Ouellet dans le coin russe, Samuel Descarry dans le coin colombien. 110% va revenir pour faire une émission. Moi, je vais déchirer ma chemise à la place publique. Et ce combat-là aura lieu en 2023. Yvon va agir comme gérant. Camille va agir comme promoteur. Marc Ramsey va agir comme personne qui est stressée dans la foule. C'est ma prédiction. Dernière prédiction, le 12 avril 2023, Marie-Pierre Roule va demander en mariage Philippe Farley après qu'elle ait trop bu de slush à la mangue et au rhum sur un bateau de croisière. Par la suite, Philippe, ne sachant pas comment trop réagir avec ça, va accepter. Va essayer d'acheter du temps en fiançant Marie-Pierre à Las Vegas dans une chapelle un peu louche. Et à la fin de 2023, on ne saura toujours pas si ces deux-là se marient pour vrai. C'est ma prédiction romantique pour 2023. C'était ton podcast préféré qui s'en va écouter les Cowboys de Dallas contre les Texans de Houston sur DAZN. Merci, bonsoir.
Que la mauvaise habitude des gens des régions du Québec, surtout Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, de nous accueillir partout par un « Hey, salut, comment tu vas? » Il n'y a pas besoin de me faire tutoyer pour être apprécié. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Apprenez à vivre.